L'arbre durable mais vulnérable. Tel est le thème du colloque 2010 de la Société nationale d'horticulture de France, qui propose aux Parisiens une florale tempête de neige dès le 4 décembre et autant de colloques sur le jardin et la santé à Bordeaux, Lyon et même en Guadeloupe. D'un âge respectable, la SNHF est en pleine forme, ainsi qu'en témoigne Monique Demâtre, présidente de son conseil scientifique.
Mignonne, allons voir si la rose. Avant d'être poétique, l'horticulture est une société savante.
Vénérable dame, société savante, créée au 19e siècle et plus exactement en 1827. Une société savante, c'est quelque chose qui ne correspond plus à rien dans l'esprit de notre époque. C'était des sociétés qui réunissaient des spécialistes souvent pointus, des gens de l'Académie des sciences, grands pépiniéristes, savants du muséum, botanistes, voyageurs, qui venaient apporter leur point de vue pour promouvoir l'horticulture et en particulier les modernités de l'époque. Par exemple, des personnalités qu'on n'attend pas pour dire l'éclectisme de l'époque, le chirurgien du roi Dupuytren, le vicomte Éricard de Thury qui va devenir président, premier président et conseiller d'État, de nombreux et célèbres pépiniéristes, je ne citerai que Villemorin, des botanistes en grand nombre, dont certains étaient de grands voyageurs. Le rôle savant d'une société est quelque chose qui nous échappe à l'heure actuelle. Et pourtant, c'est très important, puisque c'est, à mon avis, le seul lieu où peut être débattu sereinement, sans intérêt aucun, des sujets d'actualité et de société. Donc la société savante revient à sa fonction originaire, qui était d'apporter cet éclairage parfaitement impartial sur un certain nombre de sujets qui touchent à notre vie dans la nature et avec le monde végétal.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, lors des grands voyages, des grandes découvertes, on rapportait des plantes et puis ça passait par vous pour leur examen, pour leur vulgarisation ensuite?
Pas exclusivement, parce que le muséum, tout de même, qui était grand promoteur de voyageurs, était assez grand à l'époque pour faire sa promotion. Mais comme beaucoup de ses membres faisaient partie de la Société nationale d'horticulture, eh bien, avec eux, effectivement, on avait des expositions, un organe de publication qui était les Annales, et dans lequel ses travaux et ses observations nouvelles peuvent être consigné.
Ça reste une société importante.
Ah oui, ça reste une grande société qui a beaucoup évolué ces dernières années, en particulier sous la présidence d'Henri Delbar, qui est quelqu'un du monde de la rose, une grande famille de grands rosiéristes. Il a pu, avec le conseil scientifique que je préside d'ailleurs, réanimer certaines vocation de notre société.
Par exemple, pour une rose, on regarde si d'autres variétés sont possibles ou bien si on peut en maintenir certaines.
Nous avons, bien sûr, le conseil scientifique qui donne des orientations, mais nous avons également des sections, des personnalités du monde de l'horticulture et de la science, des amateurs, travaillent sur une thématique. Pour la rose, ils ont organisé ces dernières années un concours qui permet de juger des variétés venues de France ou d'Europe, ou même des États-Unis, dans des contextes culturaux différents.
On juge ces variétés?
Ces rosiers sont notés à travers toute la France, dans des climats et des sols différents, et à l'issue de 2 ans de notation, on décerne le prix de la meilleure rose, celle qui résiste le mieux aux maladies, celle qui demande le moins d'intervention et qui produit les plus belles roses.
Et le grand public?
Nous avions une publication, Jardin de France, qui va être d'ailleurs profondément remaniée dans les années qui viennent, car nous allons faire des publications sur des thématiques précises et réunir des compétences dans ce domaine. Nous avons créé des colloques scientifiques sur des thématiques très différentes, des problèmes de société, les OGM, les besoins en eau, également des réflexions sur la biodiversité, des mises au point sur des productions importantes.
Lesquelles, par exemple?
Les fruitiers, les légumes. Nous faisons venir des collègues de la recherche, mais aussi des producteurs, des gens des différents services qui touchent à cette amélioration, et ils débattent avec le public d'un certain nombre d'améliorations, de bienfaits par exemple pour la santé des légumes, des bienfaits du jardin mais aussi de ses méfaits. On a traité très récemment les jardins thérapeutiques.
Qu'est-ce que c'est qu'un jardin thérapeutique?
Ce sont les jardins adaptés par les médecins à la thérapeutique dans des cas très spécifiques. La maladie d'Alzheimer, l'autisme. Dans cette mouvance s'inscrivent des paysagistes qui, avec la collaboration des médecins et de notre société, arrivent à proposer des structures nouvelles.
Est-ce qu'il y a des variétés horticoles dont on parlait à une époque et dont on parle moins ? Est-ce qu'il y en a qui ont plus la vedette ? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment en souffrance ?
Bien sûr, on s'intéresse aux variétés anciennes. Et dans la mesure où on peut apprécier leur qualité à notre époque, qui n'était pas celle des époques précédentes, on essaye de les faire connaître. Mais notre propos, c'est aussi d'avancer. L'horticulture ne doit pas être statique. Elle doit aller avec son temps. Donc promouvoir par les concours des variétés nouvelles sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup d'expérience mais qui peuvent être intéressantes.
Vous êtes dans l'horticulture depuis longtemps ?
Moi je suis chercheur. J'ai fait 40 ans de recherche à l'INRA. Je continue à m'intéresser à l'horticulture dans une autre association, une ONG, l'ECTI. L'ECTI est une société de seniors experts internationaux. Nous allons, à la demande des pays, porter notre connaissance et puis réfléchir avec eux sur des projets.
Alinra, qu'est-ce que vous faisiez ?
J'étais médecin des plantes. J'ai été d'abord bactériologiste, j'ai beaucoup travaillé avec l'Institut Pasteur. Et puis ensuite, on m'a confié la direction de la station de pathologie, dans laquelle se retrouvaient des spécialistes, des virus, des bactéries et des champignons pathogènes des plantes.
C'est pas rose d'être une plante ?
Les plantes ont leurs amis et leurs ennemis. Leurs amis, ils se regroupent et à ce moment-là, ils se soutiennent pour croître. Et c'est pour ça que dans les jardins, quelquefois, l'expérience montre qu'il faut associer certaines plantes à leur profit. Mais il y a aussi des luttes sévères au niveau racinaire, parce que les racines excrètent des substances qui, quelquefois, ne plaisent pas du tout à leurs voisines. Donc, ça n'est pas une gentille société.
Les plantes se font la guerre.
Elles se font la guerre, mais elles sont aussi humanitaires, si je peux dire. On est très intéressé par cette recherche sur ce qui permet aux plantes de se maintenir les unes les autres. Comment faut les associer dans les jardins, de manière à ce qu'elles... elles se soutiennent et qu'elles créent un beau jardin.
Et y a-t-il une fleur que vous préférez à toutes les autres ?
Oh non, moi je n'ai pas de préférence. Au contraire, je prêche la biodiversité. Alors, je pense que toutes les fleurs sont porteuses d'un message intéressant au niveau de la beauté, mais aussi au niveau de la santé. Toutes les plantes, fleurs ou légumes interviennent dans la préoccupation des gens à maintenir leur santé.
En 40 ans de carrière, vous avez vu le paysage changer ?
Des progrès, j'en ai vu beaucoup. Je suis rentrée à l'INRA en 58, je l'ai quittée en 97. Beaucoup de choses avaient changé dans la conception de la recherche et aussi dans l'intégration de l'écologie, qui n'était pas en 58 notre propos premier. À l'époque, il fallait surtout nourrir les gens.
Le potager du roi a-t-il un lien avec vous ?
Ça a un lien, comme beaucoup d'autres secteurs qui nous intéressent de l'horticulture. Le potager du roi a été créé, vous savez, par la Quintini pour Louis XIV. C'était quelque chose de très pragmatique, c'était pas une création... C'était pour la table de Louis XIV, qui voulait d'ailleurs à l'époque promouvoir dans ses réceptions l'art horticole français. C'est là que l'art du verger et du potager a fait la renommée de la France en horticulture.
Qu'est-ce que vous pensez des fleurs que l'on teinte, des roses noires par exemple ? Rose bleue, pardon.
C'est une performance technologique, certes, mais en ce qui concerne, et je le prends uniquement à mon compte, c'est une affaire d'éthique. Chaque plante a ses richesses. Et si on se met à balayer toute la gamme des pigments en les passant d'une espèce à l'autre, on risque de leur faire perdre leur personnalité. Et d'une jeune femme pétillante, on va faire un individu qu'on pourrait trouver n'importe où.
Donc décidément, parfois, les Japonais, entre les sushis et les roses bleues, c'est pas terrible. Hein.
En tout cas, c'est une vraie performance technologique. Ça, il faut le reconnaître.
Une réponse scientifique, c'est bien. La Société Nationale d'Horticulture est rue de Grenelle, à Paris, une rue à ministère. On peut être aussi savant hors de Paris, en région, non ?
Je voudrais revenir sur ce point, ça me paraît important. Dans les activités que nous avons, notre structure est telle que nous avons deux niveaux d'activité. Un niveau, j'allais dire, de réflexion, puis un niveau plus d'expérience et de pratique. Alors, au niveau de la réflexion, eh bien, on a fait énormément de colloques sur différents sujets. Par contre, sur le plan expérimental, j'allais dire, nous avons des sections. Et ces sections permettent aux adhérents de notre société, mais également des sociétés qui adhèrent à la Société nationale d'horticulture de France, de communiquer leur expérience et leur savoir. Alors, sous forme d'exposition, sous forme de journée, des prix, donc des prix du dahlia, prix de la rose. Également, nous avons comme but de mobiliser au niveau du conseil scientifique la recherche et l'enseignement supérieur sur des problèmes qui peuvent permettre à l'horticulture de se développer. Alors nous donnons un prix chaque année de 3000 euros à un jeune thésard qui apporte par son travail de thèse des éléments nouveaux pour l'amélioration de la science horticole.
Tout ça est bien vivant. Votre prochain rendez-vous, quelque chose grand public que les gens ont intérêt à ne pas manquer?
Alors d'abord, nous avons également des présentations, des expositions, dont une qui couvre l'art floral, parce que c'est une de nos activités, l'art floral. C'est une section très active à la SNHF. Elle a d'ailleurs pour mission de donner capacité aux gens par des diplômes, capacité à des personnes d'enseigner et de promouvoir l'art floral. Donc là, il y a Tempête de neige du 4 au 7 décembre dans notre immeuble. Sur le plan scientifique, nous avons deux journées satellites du colloque, l'une à Lyon et l'autre à Bordeaux au mois de janvier, et une troisième à Paris, toujours sur le même thème. Nous avons au mois de mai un nouveau thème, l'arbre, durable et vulnérable. Durable parce que c'est toujours un symbole de la longévité, mais vulnérable parce qu'effectivement, nous allons le montrer dans ce colloque, il y a beaucoup d'incidents climatiques, mais également au niveau des changements technologiques qui font que l'arbre de nos cités s'intéressera pas à la forêt, l'arbre de nos cités est en danger.
Aujourd'hui, il n'y a plus de pesticides dans Paris, ça va mieux dans Paris ou pas pour les arbres?
Justement, pour 2011, nous avons prévu de faire une mise au point sur quel comportement on doit avoir justement. Est-ce qu'on doit supprimer radicalement toute intervention chimique et promouvoir des techniques douces? Ou bien est-ce qu'on doit bien comprendre que chaque méthode a ses inconvénients et ses avantages? Et donc essayer d'associer dans ce qu'on appellerait une gestion intégrée tous ces moyens, de manière à ce qu'on n'ait pas l'incident qui nous, pathologistes, nous préoccupe. Si on arrête brutalement le traitement, qu'est-ce qui va se passer au niveau des équilibres biologiques? Est-ce qu'on ne va pas avoir des épidémies effrayantes qui vont s'abattre sur les plantes? Et tout cela est important de réfléchir à cette action future.
Les plantes tombent malades comme les êtres humains. Est-ce qu'elles sont exposées en ville à des maladies plus particulières?
Non, enfin je pense pas particulières. Comme en ville, on a des plantations qui regroupent des essences, parfois à tort, qui ne sont pas vraiment adaptées à nos climats. Là-dessus, on en vient d'ailleurs. On commence à repenser la question. Mais il fut un temps où justement l'exotisme intéressait tout le monde et on avait des végétaux qui n'étaient pas bien adaptés aux circonstances. Dans ces cas-là, ils étaient fragilisés. Moi, j'apprécie très peu cette avalanche d'oliviers sur les balcons parisiens. Je trouve que ça n'est pas du tout donné aux Parisiens l'idée d'une nature adaptée à leurs conditions de vie. Je pense qu'il faut une réflexion sérieuse sur la question avant de promouvoir au niveau des villes n'importe quel végétal. Bon, parce qu'il faut quand même se renouveler un peu, mais aussi qu'il ne s'engage pas dans des voies, pas sympathiques pour la plante, parce qu'en fait, c'est l'envoyer à l'abattoir la plupart du temps.